Je parle tout bas pour ne pas me réveiller.
Accroche-toi bien.
Ça suffit.
Dans tes rêves.
C'est impossible.
Vous êtes en retard pour le thé.
Seulement si tu crois que c'est impossible. Dans tes rêves.
Dans tes rêves, un inconnu suit une petite fille dans le zoo de Vincennes. L'alerte enlèvement est déclenchée. Une femme commissaire débarque aussitôt. Elle observe les lions dans leur parc. Elle se demande ce que le fauve a bien pu voir ou entendre, ce que la bête en cage pense de l'homme libre. Qui est le plus féroce des deux, s'interroge la commissaire qui connaît déjà la réponse. Dans tes rêves, il y a un manager à manager, une secrétaire et un stagiaire non rémunéré dans un open space à l'heure du crime pour une murder party. Chacun doit jouer le rôle de l'autre durant cette soirée policière. Il paraît que c'est bon pour la cohésion d'équipe. Sauf que le cadavre dans le placard a l'air bien vrai et le manager refuse de jouer le rôle du stagiaire exploité par le faux patron joué par le vrai stagiaire. Vous me suivez ? Dans tes rêves, il y a le pays de ton enfance et celui de l'utopie. Il n'y a pas de morale à la fin, tout est possible. Tu deviens super-héros de la vraie vie. Alors, si on écoutait un peu plus ce fameux rêveur qui sommeille en nous.
Dans tes rêves.
France Inter.
Laurence Garcia.
Et pour cette nouvelle rêve partie, une rencontre d'imaginaire dont je me suis inspirée, ma première est écrivaine de polar, première femme commissaire divisionnaire dans la police française, ex-patronne de la brigade des chemins de fer, des années d'enquête et de faits divers, matière ô combien romanesque qui a dû certainement inspirer ses romans policiers. Féroce, c'est son dernier polar et c'est chez Flammarion. Bonjour, bonsoir Daniel Thierry.
Bonsoir, bonsoir Laurence.
Je me suis très librement inspirée de votre polar où la férocité est peut-être plus humaine qu'animale. Mmh. On est dans presque l'enquête philosophique, là aussi.
Oui, oui, la métaphore est forte, évidemment, mais on connaît la réponse, vous l'avez dit, et c'est tout à fait juste. Le plus grand des prédateurs, ce n'est pas celui qu'on croit. C'est quand même le prédateur à deux pattes. Parce que lui, il est guidé par autre chose que son instinct animal. L'animal, lui, bon, ben voilà, si on vient pas l'embêter, il n'embêtera personne. Du moment qu'il peut se nourrir, se reproduire tranquillement,
oui.
L'homme, c'est quand même tout à fait autre chose.
Et c'est une ex-commissaire qui parle.
Oui, qui en sait quelque chose.
Et qui aussi. En sait quelque chose, on va en parler. Ma seconde est plasticienne, comédienne, scénariste, créatrice d'un des vins à Argenteuil, la première école de jeux de rôle grandeur nature, qui organise notamment ces fameuses murder parties à l'anglaise. Je vais le dire en français, sinon les auditeurs vont nous envoyer quelques mails, les fameuses soirées enquêtes et crimes entre amis ou entre collègues de travail, on en reparlera. Bonjour, bonsoir, Woody Acuti.
Bonsoir.
Woody Acuti.
Alors ce soir plutôt Woody.
D'accord.
En tant que, en effet, master d'une troupe qui propose des murder parties et créatrice de la première école de jeux de rôle grandeur nature.
C'est votre première rencontre dans la vraie vie. On ne vous a pas réunis complètement par hasard. On va parler beaucoup de l'imaginaire, notamment policier, en littérature, dans les jeux de rôle, dans la vraie vie aussi. Daniel Thierry, vous qui aimez mélanger le vrai du faux, le vrai et l'imaginaire, pourquoi vous insistez là dans votre polar directement en avertissement en disant ceci est une fiction? Et tous mes personnages et mes situations sont inventés.
Oui, bah ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant parfois. Parce que les lieux existent, les lieux sont cités, notamment à Thoiry, au parc de Thoiry. Ceci dit, il se passe des choses quand même. Hein. Ce ne sont pas des lieux totalement dépourvus d'intérêt du point de vue policier. D'ailleurs, lors d'un de mes repérages au début de l'année dernière, j'étais là-bas la veille du jour où un rhinocéros a été abattu à coup de fusil dans le parc par des gens qui se sont introduits de nuit pour lui couper une corne, un truc absolument affreux et sans intérêt, mais les faits sont là. Bon, donc je prends la précaution de dire que jamais un enfant n'a disparu à Thoiry. Et s'il y a eu des pseudo-disparitions, en tout cas elles ont été résolues très vite,
ce
n'était que des incidents. C'est juste une précaution pour qu'on n'imagine pas que, comme dans d'autres situations, comme vous parliez de train tout à l'heure et de la police ferroviaire, à l'époque où j'écrivais pour Quai Numéro 1.
La fameuse série policière à la télé.
La fameuse série qui se passait dans les trains et les gares.
On écoutera tout à l'heure un extrait. Ouais.
Voilà, on ne pouvait pas écrire n'importe quoi parce que les gens déjà de la SNCF, qui étaient très vigilants là-dessus, ne pouvaient pas laisser écrire qu'on égorgeait les femmes dans les trains, qu'on les clouait avec des pistolets à clous contre les cloisons. Parce que même si on sait que c'est de la fiction, il vaut mieux quand même préciser que ça n'arrive pas dans la vraie vie.
N'empêche que c'est des lieux quand même assez fantasmagoriques, et des lieux hantés. Vous, par exemple, Woody, lorsque vous organisez vos fameuses soirées enquêtes, soirées crimes, pour de faux, pour de vrai, enfin, mélangeant le vrai, le faux avec des vrais gens et des fausses intrigues, c'est toujours dans des lieux clos, comme ça, dans des lieux qui forcent l'imaginaire aussi, pas forcément dans des halls de gare d'ailleurs.
C'est clos ou en extérieur, mais une forêt peut aussi amener à
carrément
à avoir un petit peu peur. Non, ça peut donc avoir lieu en effet soit en intérieur soit en extérieur, selon la demande, selon en fait quand on nous demande une murder party, souvent les gens ont un lieu et nous on intervient dans ce lieu et on s'adapte au lieu. Donc soit c'est nous qui nous déplaçons.
Donc vous dites la troupe, c'est toute une troupe de comédiens.
Voilà, la troupe de comédiens, tout à fait, qui allons vers les gens qui sont en équipe, en fixe, soit en effet, c'est eux qui se promènent dans le lieu et qui nous croisent au gré de leur déplacement.
Tout en jouant sur un scénario assez réaliste.
Tout à fait, ils ont une enquête à résoudre. Le principe d'une murder party, c'est de résoudre une enquête. Alors évidemment, ça reste très convivial, drôle avant tout, même si, on peut avoir quelques frayeurs, le but étant quand même de passer un très bon moment, de se détendre avant tout. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'un des vins propose.
À mon avis, Daniel Thierry, si on vous invitait à ce genre de partie, vous... voilà, ce serait trop facile, non?
C'est pas sûr du tout, c'est pas sûr du tout. Vous savez, moi j'ai fait déjà un travail d'enquêteur. Un enquêteur, ça travaille sur des faits, et puis c'est tout. On peut pas prendre l'imagination comme allié dans ces cas-là. Et que non, je suis pas sûr que.
Ah bon, d'accord.
Je suis pas sûr que je serais forcément un meilleur enquêteur. Après, tout dépend de la qualité de l'écriture, du scénario, du montage de l'affaire, parce que. Pour être aussi auteur, et évidemment, je sais comment ça marche. Et je sais comment on peut balader un acteur.
Le manipuler aussi,
Un lecteur, pour ce qui me concerne. Mais pour vous dire, quelqu'un qui va être placé dans une situation donnée, comment on va pouvoir le tromper, lui faire croire que, l'égarer un peu au passage.
C'est ça.
Ça, c'est le vrai travail de l'auteur, de l'imagination. Ce qui n'est pas le cas dans une vraie enquête.
Ouais. Et en jouant forcément sur ce principe des jeux de rôle, grandeur, nature, quelque part, alors, c'est pas nouveau, les Anglais font ça depuis les années 50, mais il y a toujours eu le fantasme, quelque part, de jouer le rôle d'un autre, d'avoir une autre vie, de s'imaginer dans un autre costume. C'est à la fois l'imaginaire de l'enfance et l'imaginaire de l'acteur.
Et en fait, des participants, parce que l'intérêt d'une murder party, c'est qu'en effet, nous, en tant que comédiens, le scénario repose sur nos épaules pour qu'on aille jusqu'au bout et que ça aboutisse. Mais il n'y a pas de spectateur, c'est-à-dire que les gens qui participent à une murder party ont un rôle à jouer. Souvent, quand une murder s'achève, on nous dit « Oh là là, mais j'étais dedans à fond, j'ai tout oublié, j'ai passé un moment déconnecté de ma réalité, de mon quotidien, et on s'est amusé. » Mais c'est vrai que le scénario doit particulièrement être solide, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une murder party qui finit un peu comme un mauvais polar ou quelque chose qui tient pas la route. C'est très énervant. Moi, la première, ça peut m'agacer. Donc, en effet, le scénario doit être en béton. Après, il y a une grande part d'improvisation des comédiens parce que quand ils sont en face du public, ils leur posent mille et une questions. Je n'ai pas pu toutes les envisager pour emmener tout ce petit monde dans un univers. On peut se retrouver dans un univers fantastique au 19e siècle. Tout est possible. On propose 20 scénarios.
C'est ça. Et ben, c'est pour ça qu'on vous a réunis toutes les deux d'ailleurs. Deux joueuses avec deux exercices très différents dans un imaginaire où il va y en avoir des voyages, des énigmes, des vrais faux joueurs. Voilà pour la partition. Jusqu'à minuit, bien sûr, vous postez vos songes à vous sur notre page Facebook Dans tes rêves, la rêve partie du dimanche soir anti-blues, mitonnée par Le Gang des Rêveuses, Marie-Hélène Fauquier, la réalisation, leur grand Besançon, la préparation, Muriel Pérez pour la programmation, et ce soir à la technique, notre rêveur, Julien Michel. Belle soirée. I love the way it flows, I love the way it grows. There's something in this sound that takes me far. It's like a special song.
can move my mood along. But I cannot say you'll hit through my guitar. She told me at the baseline, and everything will be alright. She told me that the groove is mine, it will take us through the night. And where I'll go, can't explain, I'll never know. But it's beautiful. You can't take this away from me. The way I hear the melody, the waves bring clarity, running through me. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity, running through me. I love the way it sings, all the joy that it brings. Remember skating down the road towards the park. I could never say no, you with that summer glow. The music gives me sun when winter starts. She told me at the baseline, and everything will be alright. She told me that the beat is mine, it will rock us through the night. And where I go,
c'est Tom Misch sur France Inter et ce soir nos deux invités, Daniel Thierry, l'écrivaine de polar, ex-commissaire divisionnaire de police, et l'artiste Woody Acuti, créatrice de jeux de rôle en grandeur nature et de Murder Party.
Quand j'étais gosse, j'aimais l'odeur du pain grillé le matin, du plastique à recouvrir les livres à la rentrée, et puis les petits pots de colle blanche à l'école.
Dans tes rêves, Laurence Garcia.
Et comme à chaque fois nous visitons, nous explorons l'imaginaire de l'enfance qui explique aussi qui l'on devient, en partie, pas toujours. Je vais commencer par vous, Daniel Thierry. Vous êtes né en Bourgogne, grandi dans un petit village en Côte d'Or. Quoi, milieu plutôt gaulliste, rural, traditionnel ou c'est un peu
rural,
cliché?
Oui. Ouais. Rural, gaulliste, oui. Mon grand-père pleurait quand il entendait la Marseillaise, mais bon, il avait fait la guerre de 14. Et on sait dans quel état ils en revenaient, ceux qui en revenaient. Rural, très rural, parce qu'ils étaient agriculteurs. Je suis donc née dans une ferme, entre des vaches et des cochons, et des poules, des lapins.
Et un papa sous-brigadier.
Et un papa qui, lui, a été blessé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et que les Allemands ont laissé pour mort dans un champ de betteraves, et qui a survécu, forcément, puisque je suis là pour vous parler de lui. Il est décédé, bien sûr, mais très longtemps après. Et pour, comme il a fait partie d'un réseau de résistance qui était assez important dans la région. Et à la fin de la guerre, papa était un petit enfant pauvre, mais vraiment très pauvre, qui n'avait pas fait d'études du tout, qui n'avait même pas le certificat d'études, qui à 10 ans gardait les vaches. Et on lui a proposé un emploi dans l'administration. Bon, il n'était pas forcément parti pour ça, il voulait être boxeur. Donc, c'était son rêve, c'était de faire boxeur, je ne sais pas pourquoi. Finalement, il a été embauché dans la police, il voulait pas être flic. On lui a dit, tu vas faire du sport, puisque tu veux faire du... Et c'est ce qu'il a fait, il a fait du judo.
Et donner des cours d'arts martiaux aux flics,
c'est ça ? Il enseignait, pas aux policiers, il enseignait aux formateurs de policiers. Mmh. À ceux qui allaient après dans les écoles et dans les centres de formation. Et il a été d'ailleurs que sous-brigadier, puisque sa vie a tourné autour du sport. Je ne l'ai jamais vu autrement qu'en survêtement ou en kimono.
Et la gamine que vous étiez lisait dévorer Alice Détective. C'est ça, les aventures d'Alice Détective, en se disant, tiens, un jour peut-être?
Non, je ne me disais pas un jour peut-être. J'étais fascinée par ce monde-là, par l'enquête, le polar, l'intrigue, l'énigme. Tout ce qui pouvait me faire frissonner déjà, ça me transportait, je ne sais pas pourquoi, c'est difficile à expliquer, parce que dans la famille, personne ne lisait, donc mon père un peu lisait un petit peu de polar, lui, mais c'était plus des drogues plus dures quand même, c'était San Antonio. Et que je lui ai piqué d'ailleurs très très vite, c'était une denrée interdite, bien sûr, il fallait... Déjà le livre en soi était... un peu subversif, c'était considéré comme une matière, un truc dont il fallait se méfier. Les gens qui lisaient, en général, finissaient par avoir de mauvaises pensées.
C'est ça.
Et c'était mon cas. Et heureusement, j'ai eu des institutrices, comme on les appelait alors, qui étaient des femmes extraordinaires, qui avaient vu, je pense, qui avaient senti en moi un potentiel à la fois sur l'imaginaire, sur la façon de jouer avec les mots, d'écrire. Ma toute première s'appelait Madame Poulet. Ça ne s'invente pas non plus.
Alors vous, ce qui compte aussi dans votre parcours, on en a parlé toute cette semaine sur France Inter, mai 68, la Libertad, ouais. Vous êtes en fac de droit à Dijon, c'est
ouais,
ça
ouais.
C'est vrai que vos camarades vous appelaient Dany Larouge, tellement vous étiez plutôt du genre un peu...
Oui, j'étais plus révolutionnaire que les révolutionnaires. Mais bon, c'est un truc, c'est une posture, hein, quand on a 20 ans et qu'on sort justement d'une période d'obscurantisme total à beaucoup d'égards. C'est-à-dire que pas de liberté, le lycée de jeunes filles en blouse, pas de garçons, surtout pas.
Mais pas à crier CRSSS pour une future commissaire de police quand même.
Si,
forcément, la question se pose.
Si, j'ai dû le faire, mais c'était plus la musique qui m'intéressait que les paroles, hein, sous les pavés. La plage, et puis ce n'est qu'un début, continuons le combat. J'adorais ces rythmes comme ça. Et nous étions donc, je suis allée à Paris d'ailleurs un petit peu pendant cette période-là pour me frotter à autre chose, pour voir ce qui se passait. J'étais très déçue de la fin du mouvement, hein. Je ne vous cache pas que j'ai vu tout le monde rentrer dans les facs en courant pour vite présenter et préparer les examens de septembre.
Ouais, enfin, attendez, pardon, mais c'est quand même aussi grâce à mai 68 les concours d'officiers de police ont été ouverts aux femmes ensuite. Vous alliez les présenter aussi, les concours
Mais bien sûr, d'ailleurs, à ce moment-là, je n'avais absolument pas l'idée d'être... Je voulais être dans les... J'étais éducatrice aussi, je faisais une formation d'éducatrice, donc je me destinais à quelque chose quand même de cet ordre-là. J'avais une petite envie d'être juge pour enfants. Je voulais aussi vivre des choses un peu subversives, quoi, d'une certaine manière, c'est-à-dire ne pas m'asseoir dans un fauteuil, le cul dans le beurre, et attendre que ça passe et vivre la vie qui nous était en quelque sorte prédestinée. Nous étions prédestinés. Mon père ne comprenait pas. Pourquoi faire des études? Pourquoi vouloir courir le monde? Mais qu'est-ce que tu vas aller chercher? Enfin, tu vas avoir un mari, des enfants, ça sera déjà bien assez pour t'occuper.
Le déterminisme.
Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Alors évidemment, quand ça arrive, mai 68 décoince justement cette... il faut quand même pas non plus surestimer la taille de l'ouverture de la porte des femmes pour les femmes dans la police à cette époque-là.
Oui, hein, ça a pris du temps en plus.
On nous recrute uniquement pour les brigades de mineurs parce que les hommes, ils vont un petit peu à reculons. C'est moins le cas aujourd'hui, mais à ce moment-là, les femmes, on nous amenait là pour s'occuper
des gamins.
Voilà, on disait oui.
Des mioches.
Ben oui, parce que.
Et bien plus tard, quand la commissaire, qui existe pour de vrai, Danielle Thierry, inventera une commissaire à la télé, on en a parlé tout à l'heure, ça donnera quai numéro 1.
Non, vous attendez, vous
terminez. Vas-y, on va faire les présentations tout de suite. Je vous amène un copain, il adore les SDF, surtout pour cogner dessus.
Non mais c'est complètement givré.
Commissaire, vous pouvez passer me voir?
Ça arrive, monsieur.
Je vois que sa réputation n'est pas usurpée.
La commissaire Marie Saint-Georges telle qu'en elle-même.
Elle est exactement ce qu'il nous faut. Elle aime agir seule, elle sait improviser, s'adapter, et elle a ce petit plus qui fait les grands flics.
C'est le générique très, très années 90, hein, avec Olivier Marchal et Sophie Duez dans le rôle de la commissaire qui vous ressemble un petit peu. Alors elle sait agir seule, improviser, ce petit truc en plus. C'est quoi ce petit truc en plus?
Oh, bah, je sais pas. Il y en avait sûrement. Il y en avait sûrement plusieurs, je crois. Oui, Marie Saint-Georges, c'est mon histoire. Hein. Elle est inspirée quand même de l'histoire de mon arrière-grand-mère.
Qui s'appelait Maria.
Oui, oui.
Une arrière-grand-mère qui avait été abandonnée, orpheline dans une gare.
Oui. À la gare de Dijon. Devant la gare de Dijon.
Ce qui est dingue, c'est que vous avez ensuite travaillé à la sûreté des gares et notamment la gare du Nord. Il y a quand même une...
Oui, puis j'ai une histoire qui est très très marquée par les trains parce qu'on a très longtemps habité avec mes parents auprès d'une voie de chemin de fer. Et on ne pouvait pas se parler d'ailleurs quand un train passait parce que tout se mettait à vibrer. Et oui, c'est une vraie histoire, mais je l'ai découverte assez tardivement. Mmh. Je savais que j'avais une arrière-grand-mère qui s'appelait Marie Gare, mais. On n'en parlait pas parce que c'était, vous savez, les enfants abandonnés, les enfants, les petits bâtards, dans les campagnes, c'était pas très bien vu.
Autre décor d'enfance et histoire d'enfance avec vous, Woody et Cutie. Alors un an 68, hein, pour le coup, non, vous n'êtes pas un bébé de la Révolution. En banlieue parisienne, vous avez grandi, milieu aussi plutôt classe moyenne, quel genre de valeurs, famille
Classe moyenne, des valeurs, je sais pas, saines.
Oui, dans ça... Mais branchée déjà, parce que vous êtes artiste protéiforme.
Alors non, je suis un peu un extraterrestre dans ma famille.
Pas de livres à la maison
Alors si, des livres à la maison, le goût du spectacle certainement. Et puis un grand frère qui est fan de jeux et stratégie. Et c'est lui en fait qui va m'initier au jeu de rôle, de table au départ. Et ensuite je vais avoir très vite envie de mener la danse et de devenir master et de gérer justement tout ça.
On parlera de ces jeux de rôle tout à l'heure. Gamine qui rêvait d'être fée, grand reporter et comédienne, tout ça à la fois. C'est un être hybride déjà avant
alors,
l'heure.
Alors tout ça à la fois, plutôt dans l'ordre. Fée petite,
voilà,
grand reporter, ado, que ça serait peut-être plus compliqué. Grand reporter, oui, j'ai même fait des études de journaliste et comédienne, oui, tout à fait. Alors je n'ai pas de formation de comédienne. J'ai appris sur le tas et en effet, je suis comédienne pour des jeux de rôle grandeur nature.
Et au ciné-club, un peu plus tard, elle allait regarder aussi ce genre de film et cet univers-là.
Il s'appelle Mac Murphy. Il a 38 ans. Il a été interné dans un hôpital psychiatrique. Pour les médecins, il est fou.
Qu'est-ce qui a pu leur faire croire ça ? Ça tient pas debout leur truc, franchement.
Jack Nicholson et Mac Murphy dans le dernier film de Milos Forman.
Croyez-vous en votre fort intérieur que vous soyez mentalement touché ?
Loin de là, docteur.
Excusez-moi, miss. Est-ce qu'il vous serait possible de baisser un peu le disque que vous passez pour que nous puissions parler entre nous ?
Si lui est fou, alors que dire de nous ?
Et oui, qui est le fou de l'autre ? Vaste question. Univers assez flippant. On a bien sûr reconnu Vol au-dessus d'un nid de coucou. Woody et Cutty, d'où vient cette attirance que vous avez eue très rapidement pour tout ce qui est étrange, le hors norme, le monstre, le pas normal ? Parce que vous avez fait des études d'art, des essais sur le monstre dans l'art notamment. Ça vient d'où cette...
Alors, je pense que... Enfin, j'évoque souvent un petit garçon quand j'étais en primaire, dont la maman avait eu la thalidomide après la consommation de je ne sais plus quel médicament. Enfin, en tout cas, ce petit garçon n'avait pas d'avant-bras.
Ouais.
Je pense que c'est le premier, et je le mets entre guillemets, monstre que j'ai croisé, qui était quelqu'un qui m'a fasciné, qui était et intelligent, et doué, et gentil comme tout. Donc il s'appelait Stéphane et c'était mon petit camarade dans la cour de récréation. Je crois que j'ai compris très tôt, enfin après en tout cas, rencontré la différence très tôt. Et en effet, le hors norme m'a attiré. Et ensuite, je crois aussi qu'il y a une angoisse, une crainte, voire une terreur de certaines choses. Et que de les avoir en main, de les manipuler, de devenir un petit peu le créateur de tout ça, ces choses-là m'attirent parce qu'en fait, elles m'effraient. Et d'avoir la main mise dessus, je pense que ça doit me rassurer aussi d'une certaine manière.
D'où ces sculptures que vous avez pu faire, qui peuvent déranger, mais qui posent aussi un autre regard sur la fameuse norme, le handicap, normal par normal.
Voilà, souvent mes sculptures sont des victimes et en fait elles ont rencontré à un moment donné un bourreau. Et c'est vrai que ces personnages-là qui fascinent, je pense, beaucoup de gens, on est complètement partagés. Alors évidemment, ils sont terrifiants. Mmh. Et c'est vrai que d'écrire des scénarios autour de choses comme ça inquiétantes, on a l'impression tout d'un coup que voilà, on peut les maîtriser et ça me paraît rassurant. Après, dans les Murder Party, le but étant de s'amuser, je suis plus détendue.
Non plus.
Voilà, tout à fait, je suis plus détendue.
À suivre, à découvrir justement l'univers des Murder Party avec ces deux imaginaires bien peuplés comme je m'en doutais.
Je t'écris, c'est moi. Il est tôt encore, j'ai rêvé si fort. Le papier sous mes doigts est dur comme ton corps. Je sais, je dors, je dors. J'hallucine ton nom et ton adresse. Et sur le côté, ça fait comme une promesse. Dieu, qu'elle est banale, la petite carte postale qui fait du mal. J'ai choisi cette image, je la trouve jolie, peut-être un peu sage, à vrai dire, qu'elle est pas mal. La petite carte postale qui fait du mal. J'aimerais te parler du sable adorable, du vent qui dort sur les coquillages d'or. J'aimerais te parler des gens sur mes lignes, j'suis pas bien maligne, j'suis qu'un sémaphore qui grigne. J't'adore, j't'adore, j't'écris ces mots. Oh, c'est dur encore, je t'aime si fort. Le papier sous mes doigts, encore et encore, je sais, j'ai tort.
La sublime voix de Juliette Armanet sur France Inter, et ce soir nous explorons l'imaginaire, les rêves, les utopies de l'écrivaine Danielle Thierry et de l'artiste Woody Cutty.
Oh my God!
Dans tes rêves.
D'où est venu ce cri horrible?
Faut enfoncer cette porte.
Papa, est-ce que...
Oh mon Dieu!
Il est mort?
C'est un véritable carnage.
Qui aurait cru que ce vieil homme avait en lui autant de sang?
Laurence Garcia, sur France Inter.
Un extrait d'une fiction de France Culture, le Noël d'Hercule Poirot, puisqu'on parle pas mal d'imaginaire policier ce soir. Woody Cutty, vous, en tant que scénariste de Murder Party, Soirée Crime, vous êtes plus Hercule Poirot ou Sherlock Holmes?
Alors, moi, je m'inspire de tout cela. Je pense que c'est vrai que peut-être que les auteurs ont du mal à sortir de ces personnages qui étaient très forts à une époque. Je pense qu'aujourd'hui, les enquêteurs ont des profils très, très variés. Mais en tout cas, pour écrire des scénarios, c'est vrai que je m'inspire de films américains ou... enfin, peut-être plutôt américains ou anglais, d'œuvres littéraires. Westlake, par exemple, qui allie l'humour et le polar, voilà, on trouve, je trouve en effet des sources comme, enfin non, voilà.
Mais vous, il y a plus de 20 ans maintenant quand vous avez décidé de monter votre école de théâtre de jeu de rôle
en
grandeur.
Pas théâtre, jeu de rôle.
Jeu de rôle, pardon, en grandeur nature. Déjà, c'était quoi dans l'idée de, ça sera au-delà du ludique. À quel moment vous avez senti, vous avez dit tiens, ça peut être aussi un outil d'imaginaire pour tous.
Alors en fait, au départ, j'ai créé un club dans un internat où des gamins pouvaient s'ennuyer. J'ai réussi à détrôner la soirée télé en proposant du jeu de rôle de table. Et là, je me suis dit qu'il y avait un intérêt pédagogique en fait au niveau du jeu de rôle. On peut tout aborder et les gamins mémorisent particulièrement bien parce qu'on est dans le ludique, donc c'est assez phénoménal. Et de fil en aiguille, j'ai proposé des murder parties. Dans un restaurant qui nous a donné carte blanche, un restaurant aujourd'hui qui n'existe plus. Et voilà, on s'est lancé. Mais en parallèle, j'avais aussi proposé ça pour des formations BAFA. Donc il y avait des spécialistes, enfin on pouvait se spécialiser en jeu de rôle grandeur nature.
Et quand parce que le jeu de rôle quelque part, il permet aussi de nous libérer nous de rôles imposés par la vraie vie en se disant tiens là c'est aussi une opportunité de sortir un petit peu de ce costume social qui est des fois un peu prédéfini.
Oui, il permet ça, il permet en effet d'oublier une part du quotidien, mais et puis il permet de prendre confiance en soi, il permet en fait énormément de choses, de créer du lien, de savoir s'exprimer en public, enfin ça c'est un super outil au-delà du jeu en lui-même. Après écrire un scénario faut une certaine rigueur, mais voilà, on apprend beaucoup de choses quand on aborde le jeu de rôle grandeur nature.
C'est comment vous écoutez ça vous, Danielle Thierry?
Oui, je parlais d'une formation, ma formation d'éducatrice, c'est quelque chose qu'on faisait aussi. On nous enseignait plein de trucs, c'était très très riche cette formation là. Et on nous enseignait ça. Alors après, évidemment, c'était destiné quand même, les jeux de rôle pour les enfants, quand ça mettait en scène des enfants, c'était plus destiné à être étudié par les psychiatres, psychologues, que par les éducateurs étaient partie prenante, parce que quelquefois, la parole de l'enfant ne se libérait qu'à travers un vecteur qui n'était pas sa personne à lui. Il y a des choses qu'il ne pouvait pas dire, parce qu'il avait tous les interdits qui s'étaient empilés. On ne dit pas de mal de papa, on ne dit pas de mal de maman. Si tu dis ça, ben, voilà les conséquences. Alors que si on lui faisait endosser la peau d'un personnage, parfois un animal d'ailleurs, je me souviens qu'on travaillait sur ces ressorts-là. Il arrivait à faire dire à un chat ce qu'il avait au fond du
cœur.
Voilà. Ouais. Donc c'est très intéressant. C'est à manier avec précaution. D'ailleurs, dans Féroce, je fais un peu
dans
ça.
Dans votre polar, oui.
Oui, tout à fait. À un moment donné, il y a des fiches.
Voilà, il y a des fiches. Et puis il y a aussi ce moment où le garçon, un garçon dont on n'arrive pas à faire sortir tout ce qu'il a fait, il fait, parce que c'est lui qui il a fait des choses, et personne n'arrive à le lui faire dire, et la psy arrive à le lui faire dire, bon, non, c'est comme un rêve, c'est comme une histoire de soliloquie, somniloquie plutôt, ou somnambulisme, mais en tout cas, c'est un petit peu l'idée quand même aussi.
Oui, c'est l'idée de s'oublier d'une certaine manière, tout à fait. Ouais. Et c'est vrai que nos participants, quand ils sortent d'une murder party, ils nous disent « j'ai complètement oublié mon quotidien, vous m'avez emmené dans votre univers, j'ai mené une enquête, on essaye de
Sherlock
trouver... »
Sherlock sort de ce corps.
Voilà, tout à fait. Ouais, tout à fait.
Sortir de ce corps, c'est ça que vous avez dit, non?
Sherlock Holmes sort de ce corps.
Oui, c'est ça.
Quand ils ont fini...
On appelle l'enquêteur qui est en eux et qu'ils ne connaissent pas toujours, et en effet, ils s'amusent beaucoup, et en même temps, ils découvrent dans une possibilité de mener une enquête qu'ils n'ont pas souvent l'occasion.
Et on devient aussi quelque part auteur d'un récit.
Exactement.
Et en même temps, depuis quelques années, c'est pas nouveau non plus, mais de nombreuses entreprises utilisent dans le cadre du management, de séminaires, soi-disant pour renforcer les équipes, l'esprit d'équipe, etc. Toutes ces techniques de soirées crime, en plus crime,
Alors, il n'y a pas toujours dans nos scénarios des crimes, mais...
Vous l'interprétez, vous, qui justement mettez en scène ce genre entre collègues de travail
Nous, on est de plus en plus, en effet, appelés par des entreprises pour l'incentive ou des choses comme ça. C'est vrai qu'après avoir pratiqué le quad, le saut en parachute, les équipes...
Paintball, sport extrême.
Voilà, paintball, etc. Les équipes se sont tournées vers d'autres choses. C'est vrai que les gens qui étaient... Les gens dans les entreprises qui sont pas très sportifs étaient
on
pas
est toujours tous des sédentaires le fameux comment vous disiez, c'était quoi votre expression tout à l'heure, où on est assis
dans le beurre
et là c'est vrai que c'est un petit travail un peu plus intellectuel quand on fait une murder party. Alors non pas que ça demande mais en tout cas on fait appel à une certaine psychologie, une certaine réflexion,
avec peut-être le rêve secret de tuer pour de faux le patron.
Nous quand on propose ça à des entreprises, on n'a pas du tout de vision psychanalytique des choses, le but étant de s'amuser. Mais je pense qu'en effet, les entreprises permettent de réunir des gens qui ne se voient pas toujours dans le cadre d'une entreprise, alors parce qu'ils sont dans d'autres régions ou parce qu'il y en a sur le terrain et d'autres dans les bureaux, ça leur permet de se rencontrer et en effet, un certain lâcher prise, puisqu'ils ne sont pas dans le cadre du travail. Donc ça permet une certaine émulation au niveau des équipes.
Vous n'avez pas de retour d'expérience après ce genre de séminaire pour savoir si subitement tout va mieux
et on ne nous en donne pas. Ça reste privé.
Et on ne veut pas savoir. Comment vous regardez, vous, ce phénomène des murder parties dans des logiques d'entreprise aussi, vous, Daniel Thierry, vous qui avez connu ça pour de vrai sur le terrain?
C'est très intéressant. Honnêtement, dans la police, on fait pas ça.
Je pense que vous n'avez pas besoin
tout de suite.
Au contraire, vous êtes peut-être...
Non, mais on pourrait imaginer autre chose. On pourrait imaginer, je ne sais pas, Alice au pays des merveilles, ça nous changerait.
Oui, c'est ça.
Ou des mises en scène justement un petit peu plus petites fleurs, petits lapins qui courent dans les clairières. Bon, dans les entreprises, ça peut avoir du sens quand justement elles sont de grande taille, que les gens ne se connaissent pas trop et qui veulent se retrouver sur un terrain qui n'est pas celui du travail.
J'ai lu une déclaration de vous, Daniel Thierry, peut-être que ça remonte un petit peu, où vous disiez « policier est un métier où l'on perd ses illusions plus vite qu'ailleurs ». On peut pas être flic.
Son innocence aussi, on la perd tout de suite.
Ah oui. On peut pas être idéaliste, humaniste et flic, alors?
C'est pas ça, c'est que on peut l'être, mais on est très vite, on ouvre très vite les yeux quand même. Moi, j'étais un petit peu utopiste. Mes 3 années de formation d'éducatrice m'avait déjà bien ouvert les yeux hein, sur pas mal de choses quand même. Mais il est vrai que avant ça, j'étais un peu bisounours. Hein. Je voyais le monde idéal. L'homme est bon, c'est la société qui le corrompt. Enfin, tous les rousseauistes de l'époque. Il en subsiste encore quelques-uns. Il m'arrive d'en rencontrer encore, de moins en moins quand même. Mais voilà. Et après, bon, c'est sûr que la première fois que vous débarquez dans ce métier-là, de mes premières affaires, c'était un double infanticide. Mmh. Mon patron me dit bon bah tu vas aller à l'autopsie parce que voilà, il faut que tu te fasses les dents. Quand j'ai vu les deux gamins, 4 et 6 ans, sur la table d'autopsie, je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là quoi. C'est voilà. Donc évidemment on perd son innocence parce que on sait très bien que tout ce qu'on a pu imaginer avant que l'homme était amendable, qu'on pouvait en tirer quelque chose, qu'il y avait des bons et des moins bons et des méchants et que c'était pas les mêmes et que j'ai très vite compris que non, la frontière était très 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 faible, très ténue entre les deux, que c'était un peu parfois un petit coup de poker, un petit coup de dé, de passe anglaise qui faisait qu'on tombait d'un côté de la barrière ou de l'autre. Et qu'il y a en nous, évidemment, toujours un méchant qui sommeille, quoi. L'histoire du bourreau, de la victime et du bourreau.
Vous pensez qu'il y a toujours en nous un méchant qui sommeille?
Oui, bah, évidemment, évidemment. Après, tout est question
de dormir ou pas, quoi.
Voilà, d'éducation, de circonstances, de permissivité aussi. Parce que malheureusement, pas vu, pas pris, c'est encore très vrai. On le constate aujourd'hui. Il y a de moins en moins d'homicides parce que les gens savent qu'ils se font choper. Il n'y a plus guère de possibilité d'échapper à notre vigilance.
Ouais, c'est là pour le coup dans les murder parties, Woody. C'est pour de faux. Hein. Réveiller
tout
le sauveur.
C'est pour de faux.
Et en même temps, ouais.
Alors, il y a toujours, en effet, quelqu'un à qui passer les menottes, ou en tout cas qui est sorti. Voilà, mais ça reste, oui, très humoristique, l'abord, voilà, de ces enquêtes, de ces polars. Voilà, c'est avant tout une troupe, je crois, qui existe, donc en tout cas depuis 10 ans. Au départ, ce sont des amis. Enfin, voilà, l'idée, c'est de créer une vraie complicité qui permet, quand on interprète nos rôles, quand on joue, voilà, que les gens sentent que tout ça, c'est en effet pour s'amuser avant tout.
Voilà, sortir du rôle de la vraie vie.
Dans tes rêves.
C'est dimanche aujourd'hui. Venez donc à la maison dîner avec nous. Vous ferez votre déclaration après, ce sera moins triste.
Laurence Garcia sur France Inter.
Eh ben, je ne sais pas si nos auditeurs vont bien dormir ce soir avec tout ce qu'on leur raconte, Daniel Thierry et Woody Acuti. Il est bientôt minuit, hein, on l'a entendu. C'est l'heure de notre dernière séquence imaginaire. Et comme à chacun de mes invités, je vais vous demander de fermer les yeux. Allez hop, vous vous mettez dans votre noir intérieur. Vous me répondez les yeux fermés. Daniel Thierry, dans vos rêves les plus fous, si vous pouviez croiser cette petite gamine qui lisait les aventures d'Alice détective, comme ça, dans sa campagne, dans son village, avec du recul, qu'est-ce que vous lui dites à cette môme idéaliste aussi?
Bah, je lui dis qu'elle avait raison quand même, parce que il faut pas sacrifier son enfance et pas sacrifier ses rêves. Voilà, il faut aller jusqu'au bout et moi, c'est ce que j'ai fait, d'une certaine manière, même si on est contrarié parfois, même si la vie, c'est pas quelque chose de linéaire, c'est pas un long fleuve tranquille, on peut utiliser toutes les formules de la Terre, même si, comme disait un de mes premiers patrons, avec les hommes, attends-toi au pire, tu ne seras jamais déçu.
pas mal.
Je lui dirais, vas-y, refais la même chose. Bon, peut-être pas tout à fait pareil, parce que l'expérience veut qu'on soit quand même un peu... c'est une lampe qu'on porte dans le dos, hein, qui éclaire le chemin qu'on a parcouru, d'ailleurs, c'est pas autre chose. Mais en tout cas, je lui dirais, vas-y, et fais ce que tu as fait, et refais-le pareil, quoi. C'est bien.
Woody, si vous pouviez recroiser cette gamine qui s'imaginait fée, puis grand reporter, puis artiste, vous lui dites quoi ?
Alors, je lui dirais de ne rien lâcher et en effet de croire en elle. J'aime bien cette question, c'est très agréable de pouvoir dire à cette petite fille qu'en tout cas elle vivra jusqu'en 2018. Ça pourra la rassurer.
Ça c'est fait.
et de faire plaisir, de partager aussi. Je crois que le principe des meurtres Murder Party, c'est de partager des bons moments. Et la création de l'école, c'est aussi toute cette expérience que j'ai acquise, cette passion. C'est aussi avec la volonté de la partager et que d'autres prennent le relais. Mmh. Je crois que j'ai aussi cette envie vraiment de former des gens, de passer le relais.
Toujours les yeux fermés, Daniel Thierry. Dans vos rêves les plus fous, l'enquête politique, l'enquête historique, policière, d'aujourd'hui ou même d'un autre temps que vous auriez aimé mener, percer, ça aurait été laquelle ?
Il y en a plusieurs, mais je l'ai fait à travers des livres, à travers des recherches que j'ai pu faire. Il y a de grandes énigmes qui en sont et qui n'en sont pas.
Laquelle, par exemple ?
Je sais pas. Je pense à l'affaire Boulin, par exemple, qui reste encore aujourd'hui un truc très sensible, un sujet très sensible. Voilà. Et puis peut-être qu'aujourd'hui, là, maintenant, plus près de nous, des histoires qui concernent d'anciens présidents de la République. Peut-être aussi, ça m'aurait plu.
Ah. Et puis il y a la fiction pour ça hein, aussi. Woody, la Murder Party, vous pourriez organiser là, avec des personnages connus, historiques, politiques, défunts d'aujourd'hui ou d'un autre temps, en leur filant des rôles, une énigme à percer, ce serait avec qui ?
Alors, j'inviterais Desproges, Pierre Desproges pour son humour sombre, parce que voilà, il faut que les Murder Party aient une part d'humour. J'inviterais, je pense, Roland Topor éclectisme. J'ai toujours
dans le rôle
eu
du coupable, Topor et Desproges.
Alors, en tout cas, je l'avais vu dans Nosferatu. Il était l'esclave du vampire et il était assez troublant. et puis, j'inviterais Simone Veil si j'avais cette chance. Parce que c'est quelqu'un que j'admire pour ses combats.
Eh ben, Murder Party.
Un trio un peu particulier.
Imaginaire, intéressante. Merci beaucoup. Vous pouvez réouvrir les yeux. On a bien voyagé dans la phase féroce, obscure, solaire, ludique aussi, policière avec vous deux. Féroce, c'est chez Flammarion et c'est signé Daniel Thierry. C'est haletant, avec des commissaires femmes d'ailleurs qui vous ressemblent aussi. Merci beaucoup Daniel Thierry. Merci. Woody, on a mis sur notre site toutes les références de votre école. Un des 20 écoles de jeux de rôle qui se retrouve à Argenteuil, que les gens pourront d'ailleurs découvrir les 26 et 27 mai prochains lors des portes ouvertes des ateliers d'Argenteuil. Hein, c'est cela ? Oui, vous avez rajouté quelque chose ?
Oui, je veux bien dire aussi qu'on joue régulièrement tous les mois dans un restaurant qui s'appelle le Relais des Peintres à Auvers-sur-Oise. Voilà, c'est l'occasion de découvrir ce que c'est qu'une murder party une fois par mois.
On va se retrouver dans la peau d'un enquêteur ou d'un brigadier ou d'une victime ou d'un témoin. On y sera. Merci beaucoup. À bientôt. Dimanche prochain, nouvelle rêve partie, changement de décor avec cette fois-ci Audrey Pulvar en tant que présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme et le dessinateur Plantu. Et bien sûr, oser rêver, l'imaginaire est notre plus grande liberté et personne ne peut nous l'enlever.